OK, si j'additionne conseiller en services financiers, plus protection du public, ça égale chambre de la sécurité financière. Ah, c'est le fun, ça.
La chambre de la sécurité financière vous protège en veillant à la formation continue, la déontologie et la discipline de 32 000 conseillers en services financiers. La CSF, c'est un plus pour votre santé financière.
Bonjour. Bienvenue à la deuxième saison de votre balado, Les petits caractères. Je m'appelle Pierre Craig. J'ai animé l'émission La facture durant 13 ans, alors j'en connais un petit bout sur la consommation. Les avocats d'options consommateurs, eux, en connaissent un grand bout là-dessus. Alors ensemble, on vous présente deux fois par mois une discussion sur ce qui touche de près votre vie de tous les jours. Dans notre dernier balado, on vous a parlé de l'augmentation des prix et de l'inflation. Ben aujourd'hui, on s'en éloigne pas trop, puisqu'on aborde un sujet qui touche près de 4,5 millions de personnes, physiques et morales. Je parle des tarifs d'Hydro-Québec. Vous voyez ça passer sûrement dans les médias, on en parle peut-être pas tous les jours, mais presque. On parle d'une hausse possible de 5 % peut-être même de 6 % l'an prochain. On lit aussi que la façon de calculer ces tarifs-là a profondément changé récemment. Bref, moi, j'y comprends pas grand-chose, puis je présume que vous non plus. Sylvie Bellefeuille, avocate chez Options Consommateurs, va nous aider à nous y retrouver. Bonjour, Sylvie.
Bonjour, Pierre.
Bon, Sylvie, on s'en parlait l'autre jour. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des tarifs d'électricité. Ça, ça en est quasiment épeurant. On va essayer de se comprendre dans tout ça, là. Je pense que le chiffre important, c'est l'année 2019. Ça, c'est une année charnière. Et c'est une année charnière pendant laquelle une loi va venir changer la façon de fixer les tarifs d'électricité. Alors, commençons par avant 2019. Comment ça se faisait, là, la fixation des tarifs d'électricité d'Hydro-Québec?
Bon, il faut savoir qu'Hydro-Québec, c'est quand même un monopole. Hein? On n'a pas vraiment le choix quand on achète de l'électricité. On doit se brancher sur le réseau d'Hydro-Québec ou essentiellement Hydro-Québec. Hein? Alors, on n'a pas trop le choix. Et c'est vraiment un contrat qui nous est, à toute fin pratique, imposé, tout comme les tarifs. Dans une situation de monopole, le risque, c'est que l'entreprise qui a le contrôle puisse fixer les conditions et les tarifs qu'elle le souhaite sans avoir des personnes pour lui mettre des bâtons dans les roues. Alors, okay. Pour éviter ce genre de situation-là, il y a un tribunal administratif qui a été fait, ou quasi-judiciaire, si on veut, qui a été créé, qui s'appelle la Régie de l'énergie. Et à chaque année, lorsqu'Hydro-Québec souhaitait avoir soit une modification de ses tarifs, soit une modification même des clauses du contrat, pouvait pas juste l'imposer comme ça à la clientèle, donc doit faire une demande à la Régie de l'énergie. Donc, c'est un procès. À toute fin pratique. Alors, Hydro-Québec doit déposer un paquet de preuves. Et là, si on va sur le site de la Régie, tu vas voir qu'il y a beaucoup de documents, beaucoup, beaucoup de chiffres qui sont présentés et va devoir prouver, dans le fond, à la Régie de l'énergie, c'est quoi les revenus qu'elle a besoin pour pouvoir offrir le service à l'ensemble de la clientèle.
OK, mais tu dis que c'est un procès, mais dans un procès, il y a toujours deux parties. Alors, d'une part, il y avait Hydro qui amenait ses arguments, je veux, mettons, 3 % d'augmentation. Mais qui était la partie adverse d'Hydro?
Bien, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des intervenants, donc des organismes qui font la demande auprès de la Régie de l'énergie pour pouvoir intervenir. Alors, même si Hydro dépose sa preuve, il faut quand même que la Régie de l'énergie l'analyse. Donc, c'est pas juste parce que c'est demandé que c'est tout cuit dans le bec, mais il y a la possibilité pour différents intervenants de pouvoir intervenir et présenter une contre-preuve, donc des contre-expertises, faire l'analyse des chiffres, aller interroger ou contre-interroger les témoins d'Hydro. Donc, un procès vraiment en bonne et due forme.
Ah oui. Avec des avocats de chaque partie là, qui font leur preuve devant le ou la juge de la Régie de l'énergie.
Absolument. En fait, c'est un panel de trois régisseurs habituellement qui entend ça. Okay. Options consommateurs, depuis des années, fait partie des intervenants qui vont présenter une contre-preuve donc à la Régie, qui va poser dans le fond des questions, qui va présenter une preuve. Et c'est suite à cette étude-là, dans le fond, ce procès-là, que la Régie va déterminer quels sont les tarifs qui sont raisonnables.
Donc, mais la régie n'alignait pas nécessairement l'augmentation des tarifs sur l'inflation, là, si j'ai bien compris, parce qu'on s'en est parlé toi et moi avant, là, on ne fera pas de cachette au monde. Des fois, c'était plus haut, des fois, c'était plus bas que l'inflation.
Effectivement, et l'inflation n'est même pas un facteur. Habituellement, on prend les chiffres d'Hydro-Québec, il y a des projets qui peuvent être présentés, parce que souvent, Hydro-Québec a aussi des projets d'investissement, veut faire un paquet de choses, et c'est normal. Et tous ces investissements-là, ou ces projets-là, peuvent avoir des impacts sur les tarifs, bien évidemment, que l'on paye. Alors, tout ça doit habituellement être révisé par la régie qui va donner son feu vert ou va refuser des fois certains projets si c'est mal ficelé.
OK. Hey, et, c'est gros, là. Wow, là. Tu es en train de me dire que la régie de l'énergie avait le pouvoir de dire à Hydro-Québec qui disait, ben là, nous autres, on veut développer tel projet sur telle rivière, gros projet. Puis évidemment, comme c'est un gros investissement, il faut augmenter les tarifs. Mais ce que tu me dis, c'est que la régie, au nom de son pouvoir de contrôle des tarifs, pouvait bloquer à la limite un projet d'Hydro-Québec qui ne devait pas être bien, bien content.
Effectivement. Et bon, il y a différentes auditions là, qui se passent à la régie parce que même Hydro-Québec est divisé en plusieurs parties. Il y a Hydro-Québec Transport, Hydro-Québec Distribution. Donc, tout ça est vraiment sous le chapeau de la régie. Donc, il y a des éléments qui sont encore soumis à la régie. Et là, on arrive vraiment à la période charnière, donc 2019, où est venu ce fameux projet de loi-là.
Mais... juste avant qu'on y arrive, parce que je trouve ça important puis très intéressant, parce qu'on ne connaît pas ça, la régie de l'énergie, hein, les tribunaux administratifs. Pour finir sur Hydro, là, bon, donc il y avait une part de contrôle, si je comprends bien, sur les projets. Pas un contrôle absolu, mais une part de contrôle. Pour Hydro, la régie, c'est même prononcé, je pense, là, quand la question des compteurs intelligents est arrivée, qui allait coûter des sous, la régie a été impliquée là-dedans.
Oui, absolument. La régie a été impliquée là-dedans sur la façon de faire et aussi parce qu'une autre des questions qui était devant la régie était de savoir, bien, pour les gens qui voudraient, par exemple, ne pas avoir de compteur intelligent pour toutes des raisons qui peuvent leur être propres, Hydro-Québec a donné l'opportunité aux gens de pouvoir avoir un compteur mécanique là, qui n'est pas intelligent, mais il y a des frais supplémentaires qui peuvent être facturés à ces gens-là. Et tout ça aussi fait partie du cadre qui a été déterminé par la Régie de l'énergie.
Puis tu m'as dit, quand on s'en parlait, une chose que j'ignorais totalement. Je connaissais vaguement la régie, là, comme bien des gens, mais j'ignorais ce que tu m'as dit. C'est pas seulement les tarifs d'Hydro qui sont contrôlés ou encadrés par la régie.
Donc oui, la régie, effectivement, encadre également les tarifs d'énergie et des autres plus petits distributeurs d'énergie. Là, quand on parle de Hydro Sherbrooke, Hydro Joliette, donc plus petit, il y a des plus petits distributeurs aussi qui sont aussi chapeautés par la régie.
Donc, la régie, si je comprends bien, ce qu'elle encadre, elle, c'est les monopoles.
En toute fin pratique, ce sont les monopoles en matière d'énergie. Elle a aussi un certain regard sur les essenceries. Là, c'est un petit peu plus... on peut rentrer dans un débat beaucoup plus technique, mais un certain regard
aussi... Il encadre un peu ça. OK, absolument. On en a parlé l'autre fois. On va rester sur notre électricité, si tu veux bien. Et on arrive à ce que tu voulais nous expliquer. Donc, 2019, comme on le disait au début, c'est l'année charnière. Et là, le gouvernement de François Legault va présenter une loi. Et je sais qu'Option s'en est beaucoup inquiété. La loi 34, explique-nous en quoi ça consiste.
Bien, en fait, le projet de loi 34, ce qu'il prévoit, c'est que plutôt que de fixer les tarifs à chaque année pour Hydro-Québec Distribution, ce qu'on vient dire, c'est qu'on va seulement mettre les causes tarifaires à tous les 5 ans. Et entre chacune de ces années-là, le tarif va tout simplement, ou les tarifs, parce qu'on parle de plusieurs tarifs ici, les tarifs vont être indexés en fonction de l'inflation. Alors, l'inflation, c'est quoi dans le fond? Bien, c'est un calcul qui se fait habituellement par Statistique Canada qui prend en compte plusieurs éléments de notre panier d'achat comme consommateur. Donc, ça vise l'alimentation, ça vise le coût des voitures, le coût des vêtements qu'on achète, ce qui est exclu dans le fond.
C'est un panier, on l'a vu la semaine dernière, c'est un panier de 700 services et produits calculés par Statistique Canada. Puis je pense qu'Hydro, son calcul se basait sur de septembre à septembre, hein, je pense.
Oui, c'est ça. Donc ça, c'est ce qui est prévu dans le fond dans la loi. Là.
On calcule l'inflation ou l'augmentation des prix de septembre à septembre, ça donne un chiffre, et c'est ça qui est l'augmentation des tarifs. Mettons là, que les prix ont augmenté de 4 % ou 5 %, si je comprends bien ton explication, c'est ça qui représente l'augmentation tarifaire.
Exactement. Donc, l'idée de ça, selon le gouvernement, c'était de dire ben ça va être plus prévisible en disant qu'on était dans une période il y a 2 ans où l'inflation était quand même relativement stable, généralement autour de 2 % peut-être même des fois un petit peu moins. On disait ben ça va donner une certaine prévisibilité. C'était l'argument qui était avancé à l'époque par le ministre de l'Énergie, le ministre Julien. Disons que on était rattrapé par la réalité et on n'avait pas prévu une pandémie, on n'avait pas prévu non plus une guerre en Europe, ce qui fait que cet argument-là de la prévisibilité, bon, je pense qu'on peut convenir que ça a pris le bord, là, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y avait cet élément-là et c'était quelque chose aussi qui était moins lourd parce qu'on disait, ben les procès, le procès d'Hydro-Québec, là, quand on fixait les tarifs, c'est pas quelque chose qui se faisait sur un coin de table. Là. C'est un procès qui prenait quand même une certaine période, il y a des documents à produire, donc ça s'échelonnait quand même sur quelques mois, ce processus-là. Là.
Hydro trouvait ça lourd, hein? Puis je pense qu'Hydro, on sait pas quelle est la motivation. Y a-t-il des lobbies qui sont exercés? C'est-tu Hydro qui a fait? On le sait pas. Parce qu'on n'est pas derrière ces portes closes-là où les choses se décident. Mais chose certaine, Hydro, d'après ce que tu m'as dit, avait l'air pas assez heureuse d'être, on va dire, entre guillemets, débarrassée de cette comparution annuelle devant la Régie de l'énergie.
Bien, absolument. Quand le projet de loi 34 a fait l'objet d'une étude en commission parlementaire, il y a plusieurs intervenants qui sont venus présenter à la commission leur position par rapport à ça. Puis son consommateur y a participé, d'autres organismes également. La très, très, très grande majorité des organismes qui sont intervenus devant la commission parlementaire a dit « ceci est une mauvaise idée ». D'une part parce que c'est pas vrai que les tarifs d'Hydro-Québec sont toujours correspondent à l'inflation. Bien souvent, puis on l'a vu surtout dans les 5 dernières années, l'augmentation qui était accordée par la Régie de l'énergie était bien souvent un petit peu inférieure à l'inflation. Donc, c'est pas vrai que parce que nos vêtements puis nos bananes coûtent plus cher, que ça nous coûte plus cher d'acheter de l'électricité. Donc, il y avait cet élément-là qui avait été pris en compte. Donc, la plupart des intervenants ont dit que cette loi-là n'est pas bonne. Ça place Hydro-Québec dans une position difficile. D'une part, elle pourrait se trouver dans une situation où si le taux de l'inflation est inférieur aux besoins d'Hydro-Québec, ça pourrait placer Hydro-Québec dans une situation financièrement difficile. Ou, à l'inverse, si le taux d'inflation est plus élevé que les besoins d'Hydro, ben là, on va se retrouver dans une situation où on va donner à Hydro-Québec beaucoup plus d'argent que ce qu'elle a besoin. Et c'était le risque qui était là. Et aussi, ça faisait en sorte que si on se retrouvait dans une situation où l'inflation n'était pas stable, comme on le constate aujourd'hui, ben ça place les consommateurs dans une situation où ils peuvent être l'objet d'un choc tarifaire.
Bon, là, justement, tu parles de choc tarifaire. On voit des chiffres qui font peur à bien du monde. On voit des chiffres de 5 à 6 % d'augmentation. On parle pas de 2022. On parle plutôt de ce qui va se passer en 2023 parce que rappelons que pour le calcul de l'inflation, la loi 34 parle de comparer septembre, mettons, 2022 à septembre 2021 à 2022 ou 2022 à 2023. Et pour l'année 2023, ça pourrait monter à près de 6 %. Bon, pour la prévisibilité, ben on repassera, comme tu dis. Bon, mettons que... Bon, mais écoute, Legault... s'est rendu compte lui-même que ça n'avait pas de maudit bon sens. Là. D'après ce que j'ai compris, de ce que tu m'as expliqué l'autre jour, il était dans un scrum, puis il a dit, je vais le faire moi. Alors, ce qu'on voulait éviter, que le politique s'en mêle puis ça joue avec ça, va finir par arriver.
Ben, c'est tout le problème. Quand on a vu à quel point l'inflation augmentait, Option consommateur et d'autres organismes, on parle ici l'organisme qui défend les droits des consommateurs d'énergie en matière commerciale et aussi un organisme qui représente les consommateurs industriels. Donc, des gens avec qui, habituellement, on n'a pas toujours des affinités toujours dans la même direction, on s'entend. Ici, on s'est regroupé, puis on a dit, j'ai une situation qui est problématique ici parce qu'on va, si on suit la loi telle qu'elle est rédigée, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on peut se retrouver avec une augmentation tarifaire qui pourrait atteindre 5 % en 2023. 5,1 % qu'on a calculé. Et ça, c'était avant le début de la guerre en Ukraine. On n'avait pas encore ça dans les cartons au niveau de qu'est-ce que ça se passerait au niveau de l'inflation. Donc, ce qu'on a dit, c'est que ça n'a aucun bon sens. Si on applique ce tarif-là, ce que ça veut dire, c'est que rendu en 2023, dans le cas des personnes qui habitent dans un appartement, on a calculé que ça voudrait dire que par rapport au tarif d'aujourd'hui, ces gens-là paieraient à peu près 150 $ de plus par année juste en électricité. Okay. Et dans le cas des propriétaires de maisons, les gens qui habitent une maison dans la Couronne Nord, c'est 300 $ à peu près de plus par année par rapport à leur facture actuelle. Alors, c'est un montant qui est énorme et malheureusement, ce n'est pas tous les ménages qui sont capables de l'absorber d'une part. Et d'autre part, la grosse question, c'est est-ce que Hydro-Québec a besoin de tout cet argent-là et c'est là qu'est le problème.
Bien, écoute, parlons-en d'Hydro-Québec et de ses revenus, parce que je pense que c'est important que les gens le sachent. C'est le revenu là, net, pas le revenu brut, là, le revenu net qu'Hydro-Québec peut verser au gouvernement cette année, c'est quoi?
Ce qui a été annoncé dans les journaux là, dernièrement, c'est que juste en matière de profit, l'année dernière, Hydro-Québec a fait 3,5 milliards de profits. Donc ça, ça ne compte pas les perceptions des taxes ou quoi que ce soit. Là. C'est juste les profits d'Hydro-Québec. Alors, c'est des sommes énormes. Il faut se rappeler qui est l'actionnaire principal d'Hydro-Québec, c'est le gouvernement. Alors, cet argent-là, finalement, aboutit dans les poches du gouvernement.
Bon, il y a une chose que je veux ramener, parce que ça m'apparaît vraiment important. Je pense qu'en 2019, vous étiez allié aussi, Option consommateur, à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et aussi à l'Association des consommateurs industriels d'électricité du Québec, auquel vous alliez encore une fois pour redemander de ramener ça dans le giron de la régie de l'énergie. C'est pas habituel, tu l'as dit, mais je veux le souligner, c'est quand même pas habituel qu'Option consommateur s'allie. Vous êtes pas des ennemis, là, mais vous avez des intérêts assez différents. Mais là, il y a un intérêt commun et tout le monde dit au gouvernement, ça marche pas ton affaire.
Ben tout à fait. Et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que à peu près tous les intervenants en commission parlementaire ont dit au gouvernement, ce projet de loi-là est une mauvaise idée. Il y a un intervenant qui a fait vraiment une opinion complètement contraire. C'était qui? C'était Hydro-Québec, évidemment, qui faisait bien, ça leur faisait bien leur affaire. J'ai même entendu en commission parlementaire des représentants d'Hydro-Québec qui disaient, c'est le fun, avec ce projet de loi-là, on va même pouvoir aller de l'avant avec des projets que la Régie de l'énergie avait refusés. Ça, c'est quelque chose qui m'a absolument choqué parce qu'habituellement, quand la Régie de l'énergie refuse un projet, elle ne le fait pas pour le plaisir. Habituellement, elle le fait parce qu'elle considère que soit les ficelles sont mal attachées ou que tout ça n'est peut-être pas au bénéfice de l'ensemble des consommateurs. Alors, quand on fait un pied de nez à la Régie de façon publique comme ça, j'ai trouvé ça absolument aberrant. Là.
Bon, Legault a dit « Je vais contrôler politiquement une augmentation des tarifs pour qu'elle soit raisonnable. » Mais là, il y a des gens qui ont dit, Sylvain Gaudreau, je pense, du Parti québécois, tu m'as référé un article là-dessus. Wow, un instant, là, c'est parce que nous autres, on veut exporter de l'électricité, beaucoup d'électricité aux États-Unis, et ça risque de poser problème. Peux-tu nous expliquer pourquoi?
En fait, le principe d'avoir un tribunal neutre qui vient justement contrôler les tarifs, c'est pas propre à Hydro-Québec, ça, ou au Québec. C'est quelque chose que l'on voit un petit peu partout où il y a des monopoles en matière d'énergie. L'idée, justement, c'est de s'assurer que l'énergie est vendue à un tarif qui est correct et qui n'est pas justement quelque chose qui est contrôlé par des opinions politiques ou des besoins politiques. Là, la question qui peut se poser, c'est que compte tenu de cette loi-là qui a été faite et du fait que finalement la RIG a ses pouvoirs sont très fortement limités, peut-être que les concurrents ou les autres producteurs américains voient ça d'un œil pas tellement intéressant dans la mesure où ici, c'est plus un tribunal neutre qui fixe les tarifs, c'est quelque chose qui peut être fixé soit en fonction de l'inflation, donc quelque chose qui n'est pas nécessairement en lien avec l'énergie, ou tout simplement, si ce n'est pas l'inflation, mais c'est le politique qui vient à ce moment-là s'en mêler. Il y a quelque chose là-dedans qui manque de transparence. Puis
ah oui, mais je pense qu'ils exigent, ces grands importateurs d'électricité, justement, qu'il y ait un organisme neutre et indépendant du politique, des gouvernements, qui fixe ces tarifs-là. Donc, on va voir comment tout ça va évoluer. Écoute, un des grands arguments, Sylvie, qu'on entend dans le débat là, de l'augmentation des tarifs d'électricité, on entend souvent « oui, oui, mais au Québec, là, c'est à peu près les tarifs d'électricité les plus bas au monde. Qu'est-ce qu'on a à se plaindre? »
Bien, effectivement, c'est quelque chose qu'on entend souvent. En fait, j'ai deux éléments de réponse là-dessus. Le premier, faut se rappeler qu'Hydro-Québec, c'est pas une compagnie privée comme telle. C'est quelque chose qui est, qu'on a bâti ensemble comme société québécoise. C'est un choix qu'on a fait de nationaliser notre électricité, justement pour s'assurer que l'ensemble des consommateurs d'énergie québécois puissent bénéficier de tarifs qui sont justement qui sont avantageux. C'est un investissement qu'on a fait depuis des dizaines d'années. Alors oui, il y a un coût là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on a choisi de faire. C'est un choix de société qu'on a fait. Alors oui, on l'a fait, mais encore faut-il qu'on en profite. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans la plupart des autres juridictions, et bien c'est même pareil ailleurs au Canada, le chauffage, c'est du chauffage au gaz et non du chauffage de l'électricité. Nous, au Québec, on est des très grands consommateurs d'électricité, tout simplement parce que nos maisons, dans bien des cas, sont chauffées à l'électricité.
Oui.
Je pense que je n'ai pas besoin de rappeler à personne qu'il fait quand même pas mal frette au Québec dans bien des cas, ce qui fait qu'on a vraiment besoin du chauffage. Alors, il y a une différence. Si on a un tarif d'électricité qui, dans le fond, est fixé en fonction d'une situation où les gens utilisent l'électricité pour alimenter leurs appareils électroniques puis pour allumer les lumières, c'est une chose. Mais quand on paye du chauffage, c'est autre chose. Il faut se rappeler que 50 % de notre consommation d'énergie, c'est le chauffage. Alors, ouais. Ça a un impact qui est vraiment important sur l'électricité.
Ben, écoute, je voudrais revenir là-dessus parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, mais je voudrais qu'on en reparle. Il va avoir un effet. Puis, tu sais, quand on s'en parlait, tu me disais, les ménages les moins favorisés là, habitent souvent des logements mal isolés. Ils sont chauffés à l'électricité. Donc, eux vont manger la claque beaucoup plus. Si on laisse les tarifs aller à 5 ou 6 % comme il serait possible que ça arrive l'an prochain, tu parlais de 150 $ de plus. Bon, il y en a qui vont dire, bah, qu'est-ce que c'est? Mais c'est parce que pour du monde, 150 $, c'est pas rien. Alors que les prix de tout augmentent.
Ben exactement. C'est le prix de l'électricité qui augmente, mais c'est aussi le prix de l'alimentation. On l'a vu, l'alimentation, ça augmente de façon fulgurante. Le prix de l'essence aussi, pour ceux qui ont des voitures, ça aussi, c'est quelque chose qui a un impact. Donc, quand on regarde l'ensemble, c'est une hausse parmi beaucoup d'autres. Et comme tu l'as souligné, c'est pas vrai que les gens peuvent facilement juste baisser le compteur puis dire, ben j'utilise moins d'énergie. Quand on habite un logement qui chauffe le dehors, comme on dit souvent au Québec, ces gens-là se retrouvent à avoir des factures qui sont très salées, pas parce qu'ils sont des mauvais gestionnaires de leur électricité, pas parce qu'ils gaspillent leur électricité eux-mêmes, mais parce que l'enveloppe de leur habitation ne leur permet pas d'avoir une utilisation efficace de l'électricité. Alors, ces gens-là se retrouvent à payer beaucoup plus cher. Donc, ça devient, dans le fond, une forme de taxe régressive, là, dans la mesure habituellement, quand on paye des impôts, on les paye en fonction de nos revenus. C'est pas vrai qu'on paye les tarifs d'électricité en fonction de nos revenus. Donc, souvent, il y a des gens qui se retrouvent pénalisés dans tout ça.
OK. Et comme vous vous alliez avec le secteur commercial et le secteur industriel, bien, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux secteurs-là, écoute, les petits commerces, je pense qu'on n'a pas besoin de faire un dessin, ils sont endettés, là. Pendant la pandémie, ça a été l'horreur. Les industries aussi, je veux dire, il y avait les chaînes d'approvisionnement étaient brisées, ça allait pas bien. Ça va leur coûter des sous de plus à eux aussi, alors qu'ils auraient besoin justement d'argent pour rembourser les dettes qu'ils ont accumulées pendant la pandémie.
Ben absolument. Puis il faut se rappeler aussi que quand on achète des biens, ces biens-là, dans le fond, elles ont un coût. Ces biens-là, le coût, c'est le coût d'achat, le coût de production, le coût d'électricité. Alors, si ces entreprises-là, ça leur coûte plus cher d'électricité, ben il faut se rappeler que cette facture-là va aussi nous être retransmise à la suite dans les coûts des biens qu'on consomme, là.
Bon, écoute, dans le dernier budget de M. Girard, il y a un beau chèque de 500 $ pour toute personne gagnant moins de 100 000 $. Est-ce que quelqu'un pourrait pas dire, bon, c'est bien beau tout ça, là, mais regarde, on règle le problème, on donne 500 $ à tout le monde?
Bien, ça, je pense que c'est l'exemple parfait d'une fausse bonne idée. D'une certaine façon, je pense que la plupart des gens sont contents. Quand on reçoit de l'argent qui n'était pas prévu, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être choqués de la situation. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'aide pas les gens qui en ont réellement besoin. C'est pas vrai que, par exemple, un couple dont les revenus combinés là, approchent les 200 000 $ vont recevoir 1 000 $ ici, avec cette mesure-là, alors que la personne qui est chef de famille monoparentale, donc un adulte avec, par exemple, 3 enfants qui fait 35 000 $, ben cette personne-là va recevoir 500 $. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment équitable là-dedans. L'autre problème aussi, c'est qu'il faut savoir que, dans le fond, l'inflation, ça a un impact, pas juste une fois, ça a un impact à chaque fois qu'on va faire l'épicerie, à chaque fois qu'on paye son loyer. Donc, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Un chèque, une fois, c'est comme un peu mettre un plaster sur une infection, là. Ça peut stopper l'hémorragie maintenant, mais ça ne règle pas le problème en dessous. Ce qu'il aurait fallu, si on aurait vraiment voulu aider les gens, c'est de mettre des mesures qui sont beaucoup plus structurantes, quelque chose qui perdure dans le temps et qui cible davantage les gens qui ont réellement besoin d'aide. C'est pas vrai que tout le monde a besoin du même niveau d'aide, là.
Alors, l'espèce d'alliance, encore une fois, là, qui avait été créée en 2019 pour s'opposer à la loi 34 entre Options consommateurs, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes et l'Association des consommateurs industriels d'électricité a recommencé. Et là, comme geste pour essayer de faire un peu de pression sur le gouvernement, qui commence à en avoir pas mal, là, parce que si le gars a dit « je vais régler ça », ils doivent commencer à avoir un minimum de pression. Mais pression supplémentaire, il y a une pétition déposée à l'Assemblée nationale pour demander, je présume, le retour du contrôle de la hausse des tarifs d'hydro dans les mains de la Régie de l'énergie.
Absolument. Donc, Option consommateur a lancé une pétition. C'est parrainé par Manon Massé de Québec solidaire. Alors, on invite les gens qui veulent s'opposer au régime actuel et qui veulent, dans le fond, nous aider dans cette démarche-là, aller signer la pétition. C'est disponible sur le site Internet de l'Assemblée nationale. Le lien est disponible sur le site web d'Options consommateurs. Dans le fond, ce qu'on demande, c'est pas compliqué, là. Ce qu'on demande, c'est tout simplement qu'on redonne à la Régie de l'énergie le pouvoir de fixer les tarifs sur une base annuelle pour s'assurer que l'augmentation des tarifs soit raisonnable et tienne compte des besoins réels d'Hydro-Québec. Et en attendant, ben, qu'on gèle les tarifs, là, pour éviter l'hémorragie, là.
Ben écoute, on sait que ce gouvernement-là a déjà reculé. Ça, à son crédit, je pense qu'on peut lui donner ce crédit-là. Ils ont déjà reculé, mais là, ce serait un gros recul parce que c'est une loi qui a été passée avec des arguments. Ça va être plus prévisible. Puis évidemment, il doit avoir la pression d'Hydro-Québec qui souhaiterait, on le sait pas, mais je présume que si on interviewait Mme Brochu, elle nous dirait peut-être en termes très diplomatiques qu'il vaut mieux que ça continue comme ça, que ce soit calculé par l'inflation parce que ça bloque pas les projets, parce que ça laisse un petit peu plus de liberté à Hydro-Québec. Sylvie, je te remercie, c'était très clair. Maintenant, je me sens mieux, je comprends mieux ce qui se passe avec l'augmentation des tarifs d'électricité. Merci bien.
C'était un plaisir, Pierre. À bientôt.
Bye. Dans le Journal de Montréal du 14 mars dernier, mon collègue Michel Girard a calculé que la contribution d'Hydro-Québec aux revenus du gouvernement atteignait en 2021 la somme faramineuse de 6,13 milliards de dollars. Imaginez. Si on divise cette somme, ça donne ceci. 3,5 milliards en profit net d'Hydro, plus 1,23 milliard, parce qu'on paye de la taxe là-dessus, 1,23 milliard en taxes de vente du Québec, auquel s'ajoute un autre 1,3 milliard en taxes et redevances diverses. Et si vous voulez prendre connaissance du communiqué conjoint d'Options consommateurs, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et de l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité, qui tous les trois réclament le retour de la Régie de l'énergie dans la fixation des tarifs annuels, ben rendez-vous sur le site d'Options consommateurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Portez-vous bien. À la prochaine. Bonjour Sylvie.